France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jérôme Cadet.
Bonsoir à tous, bienvenue dans les informés de France Info. Vous êtes avec nous sur France Info, à la radio, à la télé, le canal 27 de la TNT et sur franceinfo.fr. Des informés sous le soleil ce soir, sous le soleil de Cannes. Le palmarès du festival est en train d'être dévoilé. On va connaître dans les prochaines secondes la Palme d'Or 2017. On va aller à Cannes dans une minute. Sous le soleil de Sicile, fin du G7 hier à Taormina et l'accord de Paris sur le climat est en danger. Versailles, la résidence du roi soleil, cadre demain de la première rencontre entre Macron et Poutine, on va en parler. Dans l'ombre cette fois, des ténors socialistes, Valls, Cambadélis, Vallaud-Belkacem en danger à 2 semaines des législatives. Et puis les couleurs du soleil choisies par la SNCF pour son nouveau logo. Les TGV s'appelleront bientôt les Inouïs. On s'interrogera sur la stratégie de la SNCF. Les informés de France Info, ce soir, Marion Mourgue, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique au Figaro, Jean-Christophe Ploquin, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de La Croix, Maurice Ulrich, bonsoir.
Bonsoir.
Éditorialiste de L'Humanité et Daïk Audouy, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Journaliste politique à France Info, on va tout de suite retourner à Cannes, retrouver Bernard Thomasson, Thierry Fioril. Révélation du palmarès 2017 du Festival de Cannes. La Palme d'Or, est-ce qu'on a... l'information officielle, j'ai envie de dire, puisque vous parliez tout à l'heure sur The Square, si j'ai bien tout compris.
Officielle, non, pas encore, bon. Jérôme, puisque c'est encore le prix... Le grand prix qui est sur scène, c'est
énorme ovation,
Campillo, hein, oui, 120 battements par minute qui a obtenu le grand prix. Bon. Mais la Palme d'Or sera décernée à The Square puisque c'est le seul film qui pour l'instant n'a rien obtenu de Ruben Östlund. On peut rappeler Thierry Fioril, Yann Bertrand est aussi avec moi, les principaux lauréats, hein, grand prix d'interprétation masculine, féminine.
Diane Kruger donc pour le film de Fatih Akin,
In the Fade.
Joaquin Phoenix pour le film de Lynn Ramsey, You Were Never Really Here. Le prix du jury pour Andrei Zviagintsev, Faute d'amour, prix du scénario partagé par Yorgos Lanthimos et Lynn Ramsey, et la Palme d'Or qui arrive, non, c'est ça.
Et la Palme d'Or qui arrive, qui avec va être annoncée par Smith. Will Smith, qui a été un...
Voilà, on reste avec vous rapidement pour l'annonce de cette Palme d'Or.
On va l'écouter peut-être en direct, c'est Pedro Almodovar qui va annoncer la Palme d'Or, mais il n'y a pas de surprise.
Non, je vais juste me contenter de dire le nom.
Le prix des 70e anniversaire du Festival des Cannes.
Ah, alors la Palme d'Or. Il y a un prix supplémentaire, Jérôme.
Ah bon, on va vous retrouver dans quelques minutes pour l'annonce de la Palme d'Or, a priori The Square, pour Ruben Östlund. On va se déplacer, le soleil de Cannes, celui de Sicile, c'est là que s'est achevé hier un G7 inédit avec pour la première fois la première ministre britannique Theresa May, le président français Emmanuel Macron et l'américain Donald Trump. Trump qui a considérablement refroidi l'ambiance sur le climat. Trump est resté sourd aux arguments de ses partenaires, même s'il n'a pas officiellement dénoncé l'accord passé fin 2015 à Paris, accord approuvé par son prédécesseur Barack Obama. À la sortie de ce G7, le président français Emmanuel Macron refuse de parler d'échec.
Nous avons bien évidemment discuté avec notre partenaire américain de ce sujet qui avait fait l'objet de beaucoup de déclarations en la matière. Et je crois que les différents arguments qui ont été invoqués par les uns et les autres ont permis d'éviter que ce sommet du G7 ne vienne limiter les avancées de l'accord de Paris ou ne vienne mettre en lumière des désaccords trop profonds.
C'est de la méthode Coué que nous fait Emmanuel Macron. Trump n'a pas désannoncé l'accord de Paris, c'est
méthode
un bon point.
Peut-être pas, finalement, après tout, il n'a peut-être pas tort d'essayer d'être optimiste et de penser que la raison peut prévaloir. Alors c'est vrai qu'avec Trump, depuis qu'il est élu, on se dit toujours que le principe de réalité va finir par s'imposer à lui. On voit que c'est pas toujours le cas, mais enfin bon, on peut espérer que ça agira dans ce sens-là. Maintenant, effectivement, Angela Merkel était, elle, beaucoup plus réservée et on ne sait pas du tout ce que va décider Trump. Alors simplement,
il a annoncé qu'il prendrait sa décision, en tout cas qu'il officialiserait la semaine prochaine.
Alors simplement une remarque, moi je pense qu'au fond, l'enjeu est tellement grave et tellement important que, en y réfléchissant ce matin, d'ailleurs en me réveillant, je me disais, mais au fond, pourquoi Est-ce qu'il n'y aurait pas des sanctions envers les États-Unis à partir du moment où un pays met en péril, parce que c'est comme de ça qu'il s'agit, l'avenir de la planète à long terme. Donc je pense que...
Parce que ce n'est pas dans le texte.
Il n'y a pas de sanctions qui sont prévues dans le texte. La philosophie globale de l'accord de Paris, c'est de jouer plutôt la transparence vis-à-vis de l'opinion. Donc il n'y a pas de sanctions comme il y avait par exemple pour le protocole de Kyoto, ce qui avait incité d'ailleurs des gens à partir.
Ce sont des engagements volontaires pris par les pays.
Voilà, et il y a une mission d'évaluation qui publiera chaque année si les États font des efforts. Donc c'est le principe du name and shaming. Je montre à l'attention de l'opinion des pays et l'opinion mondiale les mauvais élèves.
Marion Mourgue.
Juste une précision. Déjà, l'accord, en principe, sera mis en application en 2020, même si les États-Unis se retirent. Mais c'est vrai que si Donald Trump, la semaine prochaine, confirme, en tout cas, ce qu'il semble avoir décidé, ça entraînera d'autres pays, puisqu'aujourd'hui, par exemple, la Russie a signé, mais n'a pas ratifié, et donc pourrait suivre les États-Unis. Donc
on
voit
le deuxième pollueur mondial aussi. Donc si les engagements sont pas tenus, ça affaiblit quand même la promesse.
On voit le cercle que ça pourrait créer. Donc il semble que ce qui s'est passé hier ne soit pas très un très bon signe.
Jean-Christophe Ploquin, pourquoi est-ce qu'il temporise Trump ? Il y a des divisions dans son propre camp. Il est moins sûr parce qu'il parlait de canular à propos de cet accord pendant la campagne.
Je pense qu'il a vraiment besoin de temps pour évoluer, parce que quand on se souvient de ses propos de campagne, effectivement, il voulait en gros déchirer l'accord de Paris. Il est quand même très proche des lobbies pétroliers. Et par ailleurs, il y a quand même des intérêts réels des États-Unis. Il y a des intérêts objectifs finalement à défendre le gaz de schiste, par exemple. Le gaz de schiste pour les États-Unis, c'est se garantir une forme d'indépendance par rapport à l'Arabie Saoudite et aux pays du Golfe. Ça permet de maintenir, ça envoie plein de pétrole, finalement, d'hydrocarbures sur le marché. Ça permet de maintenir les prix du pétrole assez bas. Et du coup, ça permet aussi à l'industrie américaine de bénéficier d'une source d'énergie pas trop chère. Donc on comprend, il y a des arguments qui fondent sa position. Maintenant, je pense que ce que les Européens, notamment, lui ont dit pendant tout ce sommet, c'est que d'une part, il y avait la possibilité de créer de très nombreux emplois américains aussi sur les énergies renouvelables. Il y a aussi la possibilité, et il y a une sorte de responsabilité globale que les États-Unis doivent prendre, comme les Européens, vis-à-vis du reste de la planète. C'est ça qui est en train de se jouer.
On va continuer de parler de ce G7 qui s'est achevé hier en Sicile, l'enjeu lourd donc pour le climat. On va retourner à Cannes pour l'annonce de la Palme d'Or. Bernard Thomasson, Thierry Furil, c'est Juliette Binoche qui va l'annoncer ?
Juliette Binoche et Pedro Almodovar, le président du jury, qui sont sur scène. Juste un mot pour vous dire qu'il y a eu un prix spécial du 70e anniversaire qui a été remis il y a quelques instants à Nicole Kidman. Et Pedro Almodovar prend la parole pour annoncer la palme d'or de ce festival.
Ce poème, parce qu'effectivement, tout est lumière.
La palme d'or est attribuée le film de Ruben Östlund, The Square.
The Square, Thierry Fiori.
Ruben Östlund, 43 ans, suédois, qui nous avait vraiment étonné déjà dans Snow Therapy, l'individualisme dans les sociétés occidentales, l'inadéquation entre les principes de vie et le comportement, la lâcheté sont ses thèmes de prédilection. Christian est un père divorcé qui dirige en Suède un musée d'art contemporain, qui monte une expo qui s'appelle The Square, qui est censé susciter de la part des visiteurs la capacité à avoir de l'empathie pour les autres, et pendant 2h30, absolument bouleversante et drôle en même temps, il est confronté à des situations qui sont moralement très complexes, et c'est aussi très drôle.
Et c'est ainsi que se conclut cette cérémonie à Cannes, Jérôme.
Merci de nous l'avoir fait vivre, merci à vous Thierry Furil, Yann Bertrand et Bernard Thomasson, vous nous avez fait vivre cette édition 70e du Festival de Cannes, donc Palme d'Or pour un film qui nous parle de l'inadéquation entre les comportements, les principes, on n'est pas loin du sujet qui nous intéressait il y a quelques minutes, la lâcheté des hommes face au réchauffement climatique, on va pouvoir en débattre. On a entendu la contribution d'Emmanuel Macron à l'issue du G7 de Taormina, on peut écouter celle de la chancelière allemande Angela Merkel qui sur le bilan de ce G7 n'est pas du tout sur la même ligne que le président français, Angela Merkel.
Toute la discussion sur le sujet du climat a été très difficile, pour ne pas dire pas du tout satisfaisante. Nous avons une situation à 6 contre 1, ou à 7 contre 1 si vous incluez l'UE, ce qui signifie qu'il n'y a encore aucun signe quant à savoir si les États-Unis resteront ou non dans l'accord de Paris. Je pense que l'accord de Paris est tellement important qu'il n'y a pas de compromis possible.
Comment vous analysez la différence de discours entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, qui est quand même notable, Marion
Borg ? C'est vrai que le ton est beaucoup plus pessimiste, mais on a l'impression qu'Emmanuel Macron se dit en pragmatique qu'il faut arriver à faire bouger Donald Trump sur la création d'emplois. Il se dit que si Donald Trump peut venir pour signer cet accord, c'est s'il y voit son intérêt. Et Donald Trump, en entrepreneur qu'il est, peut y arriver s'il voit un intérêt pour les États-Unis. Donc on a l'impression qu'il y a deux logiques entre Angela Merkel, qui serait plus sur les principes et les valeurs, et Emmanuel Macron, qui serait plus sur le côté pragmatique pour
et
faire...
Puis une logique aussi de vieille routière, des sommets, connu. Angela Merkel, oui. Et Emmanuel Macron, c'est son premier, et partir, enfin c'est pas de sa faute hein, s'il y a un échec, mais dire ce sommet est un échec, même s'il y est pour rien, ça marque les esprits. On dira, Macron, son premier sommet, c'est un échec. Et en plus, si jamais Donald Trump change d'avis, sait-on jamais.
Il a déjà changé d'avis sur d'autres
dossiers. Sur d'autres domaines. Et ben Emmanuel Macron, avec sa position d'ouverture, pourra dire, c'est peut-être moi qui l'ai convaincu de changer d'avis.
Et c'est ils ne sont pas partagés les rôles, les deux.
Il y a quand même l'un qui a une élection derrière lui et il y en a une autre. Oui, hein, Merkel, Macron, il a une élection, ça y est, c'est bon. Enfin, il y a encore la législative, mais la présidentielle,
donc
ça va, il a gagné.
Donc il peut être plus conciliant qu'Angela Merkel.
Merkel, les élections sont devant en septembre et donc il y a un enjeu, effectivement. Elle a toujours été, ça fait 20 ans qu'elle, son image en Allemagne, c'est d'être la madame environnement, la madame climat, c'est elle qui a décidé d'arrêter le nucléaire. Enfin voilà, c'est vraiment, ça fait partie de son image de marque. Et donc là, je crois qu'elle a un gros sentiment d'échec. Et puis quand même, elle est un adversaire désigné de Trump depuis que Trump est arrivé au pouvoir. Vraiment, c'est elle, Trump l'attaque directement. Et donc là, je pense qu'il y a une espèce de mano à mano entre les deux. Et là, où, aujourd'hui, donc dimanche, elle a eu des propos encore plus insistants, Angela Merkel, aujourd'hui, en disant, on dirait qu'on entre dans une période où il n'y a plus d'intérêt collectif. Et voilà, je pense qu'elle est très, très critique à l'égard de Donald Trump.
Il n'y a pas forcément de contradiction absolue entre Macron et Madame Merkel. Pourquoi ? Parce que au fond, elle fait un constat, elle dit on en est là, et elle attire l'attention sur la gravité de l'enjeu. Hein, elle dit voilà, c'est quand même très sérieux, c'est une grave affaire, etc. Bon, effectivement, Emmanuel Macron ne dit pas ça, mais sans doute qu'il le pense. Lui, il prend plutôt le parti de dire bon, la porte n'est pas forcément fermée, ça peut bouger, etc. Donc finalement,
le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a dit il y a quelques jours qu'il approuvait l'accord de Paris. Donc
voilà,
l'administration,
on voit mal Emmanuel Macron aussi bien qu'Angela Merkel, parce qu'elle n'a pas fait d'ailleurs, dire bon ben c'est fini, les États-Unis ils n'en veulent pas, terminé, il n'y a plus rien à voir, circuler. Donc c'est un peu logique de dire oui, ben peut-être que Trump peut bouger, on verra la semaine prochaine.
Et de laisser la porte ouverte, d'ailleurs, conduit très rapidement.
Mais il va peut-être juste minimiser aussi un échec possible en disant certes c'est important, les États-Unis c'est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre avec 18%, mais il n'y a peut-être pas un effet d'entraînement sur d'autres pays. On sait que la Chine est plutôt favorable et a répété ce mois-ci qu'elle était favorable, donc c'est pas sûr non plus qu'il y ait un effet d'entraînement. Et la Russie par exemple qui n'a pas ratifié, elle n'a pas besoin de Trump pour décider ce qu'elle a à faire.
On verra dans les prochains jours ce que décide Donald Trump, sortie totale ou bien renégociation éventuelle. On va passer à un autre sujet, Maurice Ulrich, parce qu'on a un lourd agenda ce soir dans les informés France Info. On parlait des premiers pas d'Emmanuel Macron sur la scène internationale. Il était à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN, donc en Sicile pour ce G7 qui s'est achevé hier, et demain la réception au château de Versailles de Vladimir Poutine, le président russe, à l'occasion de l'inauguration d'une exposition consacrée au tsar Pierre le Grand. Réception vivement critiquée ce midi sur France Info et France Inter dans l'émission Questions politiques par le député européen Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot.
Vous imaginez le cadeau de propagande que vous faites à Vladimir Poutine, ce qu'il aurait dû faire. Parce que c'est de ça dont on a absolument besoin, y compris quand on se déclare pro-européen. C'est de voir Vladimir Poutine dans un cadre beaucoup plus neutre avec Angela Merkel pour pouvoir continuer sur les accords de Minsk sur l'Ukraine. Là, lui faire un cadeau d'une telle image d'un président de la République qui se prend pour le roi soleil et de donner à Vladimir Poutine cet extraordinaire bénéfice de communication, je trouve que c'est une faute manière très lourde.
Yannick Jadot, député Europe Écologie Les Verts, député européen, ce midi dans l'émission Questions politiques, il y a deux critiques. Il y a le symbole Versailles, cadeau fait à Poutine, nous dit Yannick Jadot, et puis il y a le tête-à-tête, c'est-à-dire pas le choix de le voir à plusieurs sur ces deux remarques. Je vous voyais souffler et pester pendant qu'on entendait Yannick Jadot.
Je trouve que Yannick Jadot en fait quand même des tonnes. Je vois pas, alors que Emmanuel Macron a rencontré Trump, on a tous vu cette poignée de main, etc., alors qu'on a énormément de réserves sur Trump. Bon, Poutine, qu'on le veuille ou non, c'est le dirigeant d'un des plus grands pays du monde, une très grande puissance.
Il est obligé de le voir à Versailles, c'est ça
Non, mais le symbole de Versailles, il est intéressant. Pourquoi ? Parce que l'exposition sur Pierre le Grand... Moi, j'y vois aussi le fait, souvenons-nous-en, que Pierre le Grand était le tsar qui a eu le plus de rapports avec la culture française.
Il a occidentalisé la Russie.
Absolument, il a occidentalisé la Russie. À son époque, n'oublions pas, à la cour impériale, on parlait français, ça se faisait, c'était très chic, et les intellectuels français de l'époque, finalement, il y avait droit de cité. Donc, après tout, c'est ainsi que...
Donc, il y a un message dans le message, en fait.
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est...
Enfin, avec Emmanuel Macron, on a toujours l'impression qu'il y a en effet un message qui est un symbole. À chaque fois qu'il choisit un lieu ou une manière de faire, oui, le Versailles, ce n'était pas innocent. Et puis, recevoir comme ça Vladimir Poutine, alors qu'on connaît leur relation assez fraîche pendant la campagne, c'est aussi une manière de dire, voilà, désormais, c'est un partenaire de travail, ce qui était plutôt demandé par les Républicains pendant la campagne présidentielle, et qui n'était pas du tout la position d'Emmanuel Macron.
Donc, alors, Emmanuel Macron, pendant la campagne, 10 avril, la candidate de l'extrême droite, le candidat de la droite des affaires et le candidat de la gauche communiste sont tous les trois fascinés par Monsieur Poutine, un dirigeant qui ne partage ni nos valeurs, ni n'a montré de responsabilité dans les grands conflits internationaux. C'était il y a un mois et demi, Daïkonui.
Oui, mais il a dit qu'il aurait des relations exigeantes demain avec Vladimir Poutine. D'ailleurs, il le reçoit à Versailles pour prolonger, pas à l'Élysée. Oui. Parce qu'à l'Élysée, c'est officiel. Versailles, c'est peut-être prestigieux, comme dit Yannick Jadot. Mais l'Élysée, ça aurait un côté officiel. Là, ça l'est un peu moins. C'est ce qu'il veut sous-entendre aussi. Il y a aussi la leçon. Il lui dit, le tsar qu'il faut suivre, c'est Pierre le Grand et c'est pas Ivan le Terrible.
Voilà.
Voilà. En gros.
Il donne un petit cours. Ce que je trouve passionnant, c'est de se mettre dans la position de Vladimir Poutine.
Jean-Christophe Lauquin.
Moi, ce que je trouve assez étonnant, c'est la façon dont Poutine se précipite à Paris pour venir voir ce nouveau phénomène qu'est Emmanuel Macron. Et il doit se dire, bon, il a vu Trump, il a vu Merkel, mais quand est-ce qu'il va
me voir? Il faut que je le voie rapidement.
Exactement. Et là, moi, je c'est peut-être subjectif, mais je me dis, là, on a l'ancien officier du KGB qui se dit, ce gars-là, il faut que je le rencontre directement, il faut que je lui serre la main.
Il y a la curiosité.
Il y a de la curiosité, et il y a un peu la volonté déjà de voir par quel fil je peux le prendre. Et puis, il y a aussi pour Poutine, c'est son plan B, finalement. Et il faut très vite qu'il renverse ses positions, parce qu'en gros, il avait plutôt misé sur Fillon. Je pense pas qu'il ait misé sur Le Pen, mais enfin, en tout cas, il avait soutenu Le Pen au moment du deuxième tour. Et donc là, très vite, la Russie, qui avait plutôt pas envisagé
l'hypothèse Macron... On a joué le mauvais cheval, il faut qu'on s'attrape.
Exactement, il faut tout de suite définir un plan B. Et c'est aussi au deuxième niveau, c'est-à-dire que les Russes pensent que Macron est très européen. Or, les Russes pensaient jusque-là que l'Union européenne était destinée à se déliter, notamment après le Brexit. Mmh. Et là, avec un Macron très pro-européen, là aussi, les perspectives à long terme de la Russie changent. Et il faut très vite qu'ils recadrent, en quelque sorte, leur vision des choses.
On continue de parler de cet échange. Demain, vous aurez la parole dans une minute, Maurice Ulrich. Cette rencontre entre Poutine et Macron demain. On continue d'en parler dans les informés de France Info, juste après l'info 20h20, Pierrick Bonneau.
Et on commence évidemment avec le palmarès du 70e Festival de Cannes. La Palme d'Or attribuée au film suédois The Square de Ruben Östlund. Le film français 120 battements par minute remporte le grand prix du festival. Diane Kruger, celui de l'interprétation féminine pour son rôle dans In the Fade. L'interprétation masculine revient à Joachim Phoenix. Le prix du jury attribué au russe Andrei Zviagintsev pour Loveless, faute d'amour en français, qui dresse le portrait d'une société russe brutale et déshumanisée. Et puis l'information nous est parvenu quelques secondes seulement avant que la Palme d'Or ne soit dévoilée, la mort du comédien Jean-Marc Thibault. C'est sa famille qui l'annonce, il avait 93 ans. Jean-Marc Thibault était l'interprète entre autres de Georges Boissier dans la série Maggie. La libération d'un Français enlevé début mars en République démocratique du Congo. L'Élysée ne fournit pas d'informations sur son identité, mais cet homme avait été enlevé dans l'est de la RDC avec plusieurs autres personnes salariées comme lui d'une société minière canadienne. Le chef de l'État félicite l'ensemble des acteurs qui ont œuvré à sa libération, en particulier les autorités de la République démocratique du Congo. Emmanuel Macron reçoit demain Vladimir Poutine à Versailles. Le chef de l'État promet un dialogue exigeant et sans aucune concession avec le président russe, notamment sur le dossier ukrainien, mais cette invitation n'est pas du goût de tout le monde. Yannick Jadot dénonce une erreur, un recul par rapport à François Hollande. L'eurodéputé écologiste était l'invité de questions politiques sur France Inter, France Info et Le Monde ce midi.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet.
Les informés de France Info avec Daïk Audouy, Maurice Ulrich, Marion Mourgue et Jean-Christophe Ploquin. La rencontre donc demain au château de Versailles, s'il vous plaît, entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine nous rappelle un sommet organisé par François Mitterrand en 1982, oui. Quelques mois seulement après l'élection du socialiste François Mitterrand à la présidence de la République. Il organise un sommet du G7. Au château de Versailles, précisément, donc un Emmanuel Macron qui peut-être se met dans les pas de ses prédécesseurs. Marion Mourgue, vous lisez ça comme ça, ce choix du château
oui,
de Versailles
encore,
demain.
Comme le soir de l'élection présidentielle, il y avait aussi la volonté de se mettre dans les pas de François Mitterrand.
Avec la pyramide du Louvre en arrière-plan.
Exactement. Mais après, il est vrai qu'il y a quelques dossiers sur la table dont il faut discuter avec Vladimir Poutine, puisque il y a quand même, vous en parliez, le dossier ukrainien, mais il y a aussi le dossier syrien. Et Emmanuel Macron a toujours dit qu'il fallait aussi une solution politique qui passe par un dialogue à plusieurs. Donc il est vrai qu'il faut en parler avec la Russie et ça sera peut-être l'occasion de réamorcer aussi le dialogue demain.
Justement, Maurice Ulrich, le fait d'offrir Versailles oui. à Poutine, non, ce cadre, pas... est-ce que ça peut non. l'assouplir ? Est-ce que ça peut permettre non. des avancées ?
Moi, je ne pense pas que Poutine se laisse assoupir d'ailleurs, par quelques ors et quelques statuts. Non, je crois qu'il a sa ligne et que ça va être, il y a des discussions à avoir avec lui, très fermes, très direct, etc. La question que je me pose, moi, c'est est-ce que cette stratégie de Macron, qui, à mon avis, est correcte du point de vue formel, qu'est-ce que ça signifie sur le fond ? C'est-à-dire, le risque, c'est, après tout, que les grands dirigeants du monde se disent « Il est bien gentil, ce garçon, il dit bonjour à tout le monde, il serre la main, mais pourquoi faire ?» Est-ce que ça va...
ça, on verra demain.
Voilà. Non, mais est-ce que ça va nous apporter, et est-ce que ça va apporter à la France une vraie place nouvelle dans le concert mondial, disons ? C'est ça la question qui est en jeu, parce que après tout, oui, il joue bien son rôle, moi je le dis franchement, sur ces jours-là, au point international, il est présent très correctement. Mais l'enjeu, c'est pas ça. C'est aussi quand même que la France puisse réellement peser dans les décisions internationales, ce qui n'a pas été le cas pendant la présidence de Hollande, où on a joué un petit peu au cavalier seul, au matamor, on va aller bombarder machin et trucs, puis finalement on se retrouve tout seul et on n'a plus aucun poids. Donc la question, c'est est-ce que cette stratégie, cette politique, cette tactique même de Macron, va être payante ou pas ?
Là, il y a une volonté manifeste de renouer avec Vladimir Poutine.
Non, mais il a raison de ce point de vue-là.
Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il ne résonne pas seulement au nom de la France. Il a souvent parlé hier, lors de sa conférence de presse au G7, des Européens. Et par exemple, oui. Parlant de la Syrie, il a dit « c'est pas normal, c'est nous les Européens qui enregistrons en quelque sorte les vagues de migrants venant de Syrie, c'est nous les Européens qui avons subi les attentats, c'est pas normal que nous les Européens, nous ne soyons pas à la table de négociation ». Donc ça, je pense qu'il va essayer de s'appuyer aussi sur l'Europe et pas seulement jouer franco-français. Moi, j'ai le sentiment aussi qu'il va être assez franc avec Vladimir Poutine. Il y a une phrase qui m'a surprise hier, justement, lors de la conférence de presse. Il a dit « la Russie a envahi l'Ukraine ». J'ai pas entendu souvent Hollande dire ça.
C'est pas diplomatique,
c'est ça. Non, c'est pas diplomatique, c'est la vérité toute nue, mais que personne n'osait jusque-là dire officiellement. Donc s'il dit ça à Poutine, on peut penser que le dialogue va être assez solide.
Donc ça peut se terminer assez rapidement et sur un désaccord total,
Poutine, j'ai lu une interview de l'ambassadeur de Russie à Paris, et il dit clairement, enfin, pas clairement, mais c'est ce qu'il faut comprendre, qu'en fait, Poutine va flatter Macron. Il le dit hein, dans l'interview, il lui dit « c'est quelqu'un qui a le profil d'être un grand homme d'État, à la De Gaulle, à la Mitterrand, avec de l'indépendance ». Donc quelque part, le Macron européen, il veut en faire un Macron français, un petit peu le désolidariser de Merkel. On sent que Poutine va peut-être le flatter. En tout cas, c'est ce qui transparaît dans cette interview de l'ambassadeur de Russie en France.
Bah de ce point de vue-là, il ne doit pas être fâché de le voir en tête-à-tête et de ne pas le voir avec Angela Merkel, par exemple.
Non, mais cela dit, je parlais de la place de la France, parce que même dans les questions européennes, la question, c'est est-ce qu'on va continuer à laisser l'Allemagne, au fond, être le seul moteur de l'Europe, ou est-ce que la France peut effectivement avoir de nouveau une position de puissant partenariat avec l'Allemagne pour effectivement infléchir la politique européenne telle que Macron l'annonce ? Est-ce qu'il va le faire ? Et dans quel sens ? C'est la question.
Oui, je pense que pour Macron, la France a besoin de l'Europe, et l'Europe a besoin d'une France forte.
Voilà.
Et donc, c'est ça qu'il va essayer de mettre en place Je pense que dans son esprit, ça passe aussi par le rétablissement des comptes publics, ça passe par une France qui a une situation budgétaire nette.
Dans ce dialogue avec la Russie, qu'est-ce qu'il y a à négocier? C'est quoi? C'est la question de l'embargo, par exemple
qui, Non, là, il n'y aura pas de mouvement sur les sanctions. Et je pense que c'est, du côté français, c'est plutôt effectivement le dossier syrien qui est important, voire le dossier libyen, parce que la Russie est quand même un acteur aux côtés de l'Égypte dans le dossier libyen. La Libye, finalement, c'est encore plus près de l'Europe, de l'Italie que la Syrie. Et aujourd'hui, les vagues de migrants, elles arrivent de Libye. Les attentats terroristes de Manchester ont été préparés en Libye.
Mais qu'est-ce qu'on peut offrir aux Russes, si je puis dire? Qu'est-ce qu'il y a dans la négociation,
Marion Morgan? C'est d'abord une première rencontre. Et Emmanuel Macron a fait quelques confidences au Journal du Dimanche sur ses premiers pas en tant que chef d'État à l'étranger. Et il explique bien que ses premières... par exemple, sa poignée de main avec Donald Trump n'avait rien d'innocent et que c'est une manière, justement, de poser déjà un acte, d'être dans un rapport de force et d'être d'égal à égal. Donc, avec Vladimir Poutine, c'est la même chose demain. Il essaiera justement de rétablir cette relation avec la Russie pour que la France soit un partenaire égal. On voit bien qu'Emmanuel Macron est dans ça, dans ces petits gestes-là qui doivent peser.
On suivra cette rencontre demain sur France Info, Emmanuel Macron, Vladimir Poutine, au château de Versailles. La suite des informés dans quelques minutes. On va parler du changement de nom des TGV qui vont devenir Inouï, changement de nom qui a beaucoup fait parler depuis hier. Et puis les législatives, c'est déjà dans 2 semaines. Restez avec nous sur France Info.
France Info Trafic avec Calibat, 73 000 entreprises pour vos travaux de construction et de rénovation. Retrouvez-nous sur calibat.com.
Vous êtes nombreux à rentrer de ce long week-end de l'Ascension. Johanna Yakin, OPC Mobilité de Radio France. Pas mal de ralentissements des bouchons ce soir, notamment sur l'A7, Johanna.
Oui, on met encore 1h45 pour faire Orange-Montélimar et c'est aussi 1 heure de perdu au lieu de 30 minutes entre Montélimar et Valence. Sur l'A9, comptez encore 55 minutes pour aller de Perpignan à Narbonne et 1h10 sur l'A61 pour faire Narbonne-Carcassonne, ça reste assez chargé. Sur l'A81, reste 40 minutes de bouchon pour contourner Laval. Et ça coince ensuite encore 40 minutes sur les 10 derniers kilomètres avant Le Mans. Sur la 13, reste une petite demi-heure de bouchon de Caen à Pont-l'Évêque. Enfin, sur la 20, là, attention, on a un nouveau bouchon. Ça coince 1 heure à l'entrée sud de Châteauroux, mais cette fois à cause d'un accident.
Johanna Yakin, OPC Mobilité de Radio France.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, torréfié à l'ancienne, pour préserver le goût unique de nos cafés. À retrouver sur malongo.com.
Le temps demain, Jean-Michel Golinski.
Ce soir et la nuit prochaine, des orages vont circuler, en particulier près de l'océan et au nord de la Loire, donnant localement de fortes précipitations sur le quart nord-ouest. Et demain, une nouvelle dégradation orageuse va traverser toute la moitié ouest du pays en s'accompagnant d'une baisse sensible des températures, baisse de l'ordre de 7 à 10 degrés sur la Bretagne, la Normandie, le Poitou-Charentes et le bassin aquitain. Plus à l'est, il fera encore près de 30 degrés à Paris, Lille et Langres, 31 à 32 près des frontières, localement 34 sur la plaine d'Alsace, avec un risque orageux sur les massifs aux heures les plus chaudes. Notez qu'au fil de l'après-midi, le ciel du nord de l'Île-de-France et du Midi-Pyrénées va commencer à se brouiller sérieusement, annonçant l'arrivée des pluies et des orages. Mardi, ce temps instable et plus frais aura fait la jonction avec les frontières de l'est.
Jean-Michel Golinski, Météo France. France Info, il est 20h30.
France Info. Deux points, ouvrez l'info.
L'info, Alexandra Dubouchon, bonsoir.
Bonsoir, le 70e Festival de Cannes s'est achevé il y a quelques minutes. Vous l'avez suivi sur France Info. La Palme d'Or a donc été attribuée au film suédois The Square du réalisateur Ruben Östlund, tableau clinique d'une société suédoise riche et malheureuse. Et puis le prix d'interprétation féminine a été attribué à Diane Kruger pour In the Fade. Écoutez l'actrice allemande juste après avoir obtenu son prix.
Thank you so much, au jury.
Merci infiniment au jury.
Overcome with emotion right now.
Je suis submergée par l'émotion.
And Thierry Frémaux et Pierre Lescure, merci, merci mille fois. Tout a commencé ici au Festival de Cannes, pour moi. And Fatih, my brother.
Fatih, mon frère.
Thank you for taking a chance on me.
Merci d'avoir cru en moi, de m'avoir permis de faire ce film. Tu m'as donné une force que j'ignorais avoir et je ne l'oublierai jamais. Tous ceux qui ont fait le film, notre équipe qui m'a vraiment soutenue tout le long, tous les producteurs qui ont rendu ce film possible, les acteurs. Je ne peux pas accepter ce prix sans penser à ceux qui ont été touchés par un acte de terrorisme, ceux qui essaient de reconstruire les choses et de continuer à vivre après avoir tout perdu. Sachez que vous n'êtes pas oubliés. Merci.
L'actrice allemande Diane Kruger au Palais des Festivals de Cannes, ce soir, juste après avoir reçu le prix d'interprétation féminine. Le prix d'interprétation masculine lui a été remis à Joaquin Phoenix pour son rôle dans You Were Never Really Here. Et puis le film français 120 battements par minute de Robin Campillo, fresque sur les années sida à Paris, a reçu le grand prix du festival. L'acteur et humoriste Jean-Marc Thibault est mort. Sa famille l'a annoncé il y a quelques minutes, célèbre pour ses duos avec Roger Pierre et son rôle dans la série télévisée à succès Maggie sur Antenne 2 jusqu'en 1993. Jean-Marc Thibault avait 93 ans. Il était le père de Xavier et Frédéric Thibault, directeur du Grand Orchestre du Splendide et du comédien Alexandre Thibault. Retour difficile sur les routes ce dimanche, fin du pont de l'Ascension et la route sous la chaleur. Des records de température ont bien été battus. Dans le nord-est aujourd'hui, selon Météo France, la ville où il a fait le plus chaud, c'était Fontainebleau en Seine-et-Marne, 33,6 degrés. Un homme de 25 ans a été arrêté aujourd'hui à Manchester dans l'enquête sur l'attentat qui a fait 22 morts lundi dernier, ce qui fait désormais 12 personnes en garde à vue. Selon le gouvernement, des complices du kamikaze sont peut-être toujours en fuite. Il est 20h33, le retour des informés sur France Info.
20h21, les informés, Jérôme Cadet.
Les informés, vous êtes avec nous sur France Info, à la télé, le canal 27 de la TNT, la radio et sur franceinfo.fr avec nous ce soir. Marion Mourgue, journaliste politique au Figaro, Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef de La Croix, Maurice Ulrich, éditorialiste de L'Humanité et Daïk Audouy, journaliste politique à France Info. On va parler dans 10 minutes de la stratégie de la SNCF qui va rebaptiser ses TGV Inouï, ce qui fait beaucoup parler depuis hier. Avant cela, le train de la campagne. Premier tour des élections législatives dans 2 semaines et des ténors socialistes ou ex-socialistes, on ne sait plus vraiment comment dire, qui sont en danger. Si l'on en croit un sondage publié par nos confrères du Journal du Dimanche ce matin, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, serait au coude à coude au second tour. Avant ça, il y a le premier, vous me direz, mais s'il va au second tour, il serait au coude à coude avec la candidate de la France insoumise, Farida Amrani. Sondage IFOP fiducial auprès de 605 électeurs de cette circonscription d'Evry. Manuel Valls en danger, vous y croyez, Jean-Christophe Ploquin?
Ben, on a l'impression que dans cette campagne, l'esprit du chamboule tout se poursuit. On a l'impression que à gauche, effectivement, les digues du PS sont rompues. Mais de fait, Manuel Valls n'est pas sous l'étiquette PS. Mais en tout cas, que finalement, l'expérience accumulée, l'action menée par tel ou tel ministre, finalement, ne compte plus par rapport au désir de changement. Et moi, ce qui me frappe, à la limite, ça, on le constate à gauche, mais on le constate aussi à droite. C'est un peu ça qui me frappe le plus. C'est que on voit que chez des électeurs de droite aussi, la présence d'Édouard Philippe, de Bruno Le Maire, de Monsieur Darmanin au gouvernement, fait que là aussi, des électeurs de droite sont prêts à finalement voter pour En Marche parce qu'ils se disent Macron peut finalement pousser un programme qui nous convient.
Oui, mais là on a un Manuel Valls qui dit qu'il veut soutenir Emmanuel Macron. Il a été maire d'Evry et il n'a pas de candidat de La République En Marche face à lui, Marion Mourgue.
Mais c'est très juste ce que dit Jean-Christophe, c'est que sur le terrain on sent une majorité de Français qui explique qu'il faut qu'Emmanuel Macron ait une majorité pour aller jusqu'au bout de ses réformes et que ce soit à gauche ou à droite. Et en effet ça balaye toutes les étiquettes, tous les candidats et toutes les personnalités. Et Manuel Valls a eu un positionnement un peu flou ces derniers temps. C'est-à-dire qu'il avait une ligne politique très claire, très identifiée. Et puis son soutien à Emmanuel Macron ces derniers jours a un peu secoué ses propres électeurs sans avoir soutenu avant son propre candidat aux primaires. Donc là, lui-même a perdu des plumes
donc
dans un jeu qui est déjà compliqué.
Donc il paye le fait de ne pas avoir soutenu Benoît Hamon comme il s'y était engagé.
Oui, c'est en ce soutenant aujourd'hui un candidat qui est un peu qui était son opposant politique.
Donc des socialistes donc, qui ont soutenu Benoît Hamon et qui ne sont pas très bien en point non plus. Mais après, il ne faut pas oublier que Manuel Valls, il n'est plus à Évry depuis 5 ans. Je veux dire, il est plus maire, il a fait été ministre de l'Intérieur, Premier ministre.
Non, il garde des réseaux, il connaît des gens, les gens, bien sûr,
dans le désir d'un renouvellement, peuvent se sentir abandonnés par quelqu'un qui a eu un moment un destin national et qui, objectivement, allait, évidemment, il fait ses voeux, hein, chaque année à la mairie d'Évry, hein, il était toujours conseiller municipal, mais il est moins présent que sur le terrain que s'il était maire. Même si le maire qui est en place est un ami personnel de Manuel Valls.
Maurice Ulrich.
Je crois, moi, que, il y a aussi le fait que les dirigeants socialistes, visiblement, n'ont tiré aucune leçon de l'échec du quinquennat. Qu'est-ce qu'ils disent ? Quelle autocritique font-ils ? Aucune. La seule chose qu'ils ont faite, ça a été de flinguer leur propre candidat officiel, celui issu de la primaire.
Benoît Hamon.
Et en, effectivement, comme le disait Marion à l'instant, en jouant de la valse hésitation, est-ce qu'on va chez Macron, est-ce qu'on n'y va pas, etc. En plus, j'ose dire que Manuel Valls c'est quand même un petit peu, on va dire, oui, ridiculisé avec en disant oui, moi je vais avec Macron, puis finalement on veut pas de vous. Donc je pense que ça n'a pas grandi son image, mais surtout, fondamentalement, mentalement, je crois que le PS officiel, les dirigeants du PS, sous-estiment complètement le fait qu'ils ont été désavoués dans les urnes et pas pour des raisons conjoncturelles, oui, pour des raisons de fond.
Ça va au-delà de Manuel Valls, hein, toujours mais dans le JDD sûr. La semaine dernière, Najat Vallaud-Belkacem à Villeurbanne, circonscription de Villeurbanne, en difficulté. Jean-Christophe Cambadélis, on n'a pas de sondage là, mais on sait que ça va sans doute être difficile pour lui. C'est le premier secrétaire du PS dans le 19e arrondissement
Je ne sais pas ce que ça peut donner pour Myriam El Khomri.
De Paris, Myriam El Khomri, qui est candidate dans le 18e arrondissement.
Mais qui n'a pas de candidat.
Voilà, elle est protégée, on va dire, par La République En Marche. Enfin, ça va au-delà du clivage. Ceux qui ont soutenu Benoît Hamon, ceux qui ne l'ont pas soutenu.
Mais on voit une dynamique très forte pour l'étiquette La République En Marche. C'est en train de basculer tout et il y a peu de doute qu'ils auront une majorité. Est-ce qu'elle sera relative ou absolue ? C'est bien parti pour qu'elle soit absolue. Et on voit les Républicains qui sont aussi très inquiets en ce moment parce que les dernières projections les donnent à 150 députés. Ce qui est quand même un très mauvais signe.
Ils ne sont quand même pas dans l'état du PS.
Ils sont donnés actuellement à 20%. Ils auront un groupe important. Mais c'est quand même rien à voir avec ce qu'ils devaient avoir.
Quand même de pouvoir gagner l'initiative et d'imposer une cohabitation.
Et la présidentielle.
C'est ce que dit Barrois encore aujourd'hui.
Oui, il y avait peut-être un peu de méthode Coué dans tout ça. Pour revenir au Parti Socialiste, est-ce qu'être une personnalité nationale connue, Manuel Valls, Jean-Christophe Cambadélis, Najat Vallaud-Belkacem, c'est pas finalement un inconvénient, un handicap?
Probablement.
Le PS est complètement éliminé. Quand vous regardez les candidats, il y en a qui mettent le petit logo PS tout à fait en bas à droite de leur affiche. Il y en a qui vont le faire valoir un peu plus. Il y en a donc comme Valls ou Marisol Touraine carrément qui font disparaître. Donc on voit qu'il n'y a plus de cohésion au sein du parti et du coup il n'y a plus de dynamique qui profite aux différents candidats.
Alors, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un réflexe chez certains électeurs de dire « moi je vote PS ». Mais maintenant, ils savent peut-être plus ce que ça veut dire.
Parce que s'il y a tellement de candidats, c'est vrai, parfois 12, 15, 19 dans une circonscription. Oui, c'est ça, que finalement, vous avez 7 ou 8 candidats de gauche. Mmh. Et donc, les électeurs sont
perdus. En plus,
quand
on vote PS,
Maurice Ulrich.
Quand on vote PS, comme l'ont fait les électeurs de Benoît Hamon, c'est-à-dire des gens qui ont voulu rester fidèles à une certaine image du PS à gauche, etc., on se ramasse à 6,5%. Donc, ça incite pas trop non plus à y retourner, je veux dire. Alors, en plus, sur cette histoire de candidats sans étiquette, enfin, on ne sait pas qui ils sont, c'est une élection, de ce point de vue-là, extraordinaire. Moi, dans l'arrondissement dans lequel je suis, dans le 10e, il y a 4 ou 5 affiches à Paris, il y a 4 ou 5 affiches différentes, je ne sais même pas qui c'est. Ils disent pas où ils sont.
Ah.
C'est ce qui est quand même incroyable.
Droite ou gauche, c'est-à-dire.
Alors on sait pas. Voilà, c'est quand même extraordinaire, mais bon. Donc ça c'est un peu anecdotique, mais c'est une élection assez particulière.
Voilà, ça en dit long de la défiance vis-à-vis des étiquettes, absolument. Et ça en dit long aussi sur le jeu de devinettes qui sont posées aux électeurs. Vous avez encore 2 semaines pour essayer de répondre. On va parler de ces législatives, continuer d'en parler dans 2 minutes, notamment des Républicains qui ont tapé sur Richard Ferrand ce week-end et avec force. On va voir ça juste après l'info, 20h40. Pierrick Bonneau.
Le film suédois The Square, palme d'or du 70e Festival de Cannes, déception pour le français Robin Campillo qui repart seulement avec le Grand Prix du Festival, Diane Kruger, prix d'interprétation féminine, Joaquin Phoenix, prix d'interprétation masculine, La Caméra d'Or récompensant le meilleur premier film est attribué à la française Léonore Serrail pour Jeune Femme. Voilà pour le palmarès du Festival de Cannes. Notez que Nicole Kidman reçoit le prix spécial, l'actrice américaine à l'affiche de 2 films qui étaient en compétition. La police britannique annonce l'arrestation d'un homme de 25 ans dans le cadre de l'enquête sur l'attaque de Manchester. 12 personnes sont désormais en garde à vue au Royaume-Uni après l'attentat qui a fait 22 morts. Ce nouveau suspect a été arrêté dans le quartier d'Old Trafford, dans l'est de Manchester. Selon la ministre britannique de l'Intérieur, les complices du kamikaze Salman Abedi sont peut-être encore dans la nature. Deuxième jour de perturbations sur les vols British Airways au départ de Londres. Des milliers de passagers étaient de nouveau bloqués dans des aéroports de la capitale britannique aujourd'hui. Une panne informatique qui a semé le chaos à Heathrow et Gatwick. Des retards et des annulations de vols chez British Airways dans les deux aéroports londoniens. Et puis deux suspects toujours recherchés au lendemain de la dégradation de la tombe du général de Gaulle à Colombelles et Deux Églises. Un acte a priori sans motivation politique qui a suscité l'indignation de la classe politique. Les enquêteurs sont sur la trace d'un homme d'une trentaine d'années. Hier, il est monté sur la tombe où repose l'ancien président, a craché dessus et a brisé la croix religieuse qui surplombait la sépulture.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet.
Les informés de France Info avec Maurice Ulrich, Daïk Audouy, Jean-Christophe Ploquin et Marion Mourgue. On parle des élections législatives. Premier tour dans deux semaines et LR, les Républicains, qui tapent sur Richard Ferrand, le ministre de la Cohésion des Territoires. Je rappelle les faits. En 2011, les mutuelles de Bretagne, dont Richard Ferrand était le directeur général, ont loué des locaux commerciaux à Brest à une société immobilière, société qui appartenait à la compagne de Richard Ferrand, qui à l'époque n'était pas encore député, information révélée il y a quelques jours par Le Canard Enchaîné. Alors, le parquet de Brest a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une enquête, mais pour Bernard Accoyer, secrétaire général de LR, l'affaire n'est pas terminée. Il était l'invité de BFM TV ce midi. Et Bernard Accoyer explique « Nous ne nous arrêterons pas là, que le procureur du parquet national financier ne se saisisse pas. C'est ignorer que les mutuelles ont un statut particulier où il y a des avantages fiscaux considérables. Ça n'est pas véritablement et exclusivement de l'argent privé. Donc, il y a de l'argent public là-dedans. Il ne lâche pas le morceau sur cette affaire Ferrand ou débat Ferrand, selon qu'on se place du point de vue du gouvernement ou du point de vue des opposants à Édouard Philippe, alors que dans un premier temps, il y a le sentiment qu'ils allaient peut-être lever le pied d'Éric Audouy.
Oui, bah, ils ont vu qu'il y avait quand même un filon à utiliser, mais néanmoins, je pense que ça ne marchera pas, parce que là, il y a ce qu'a dit M. Accoyer, il a aussi développé l'argument qu'il y avait peut-être un conflit d'intérêts, parce que Richard Ferrand, en 2012, aurait apposé sa signature sur une proposition de loi qui prévoyait que les mutuelles pourraient mettre en place des réseaux de soins, une signature parmi plein d'autres de députés socialistes. Donc franchement, ça ne peut pas prendre auprès de l'opinion. Donc je pense qu'ils essayent de fourbir leurs dernières armes, mais ça ne prendra pas auprès de l'opinion. Richard Ferrand, il a besoin de tenir deux semaines. Il suffit qu'il fasse... Ce n'est pas un ministre exposé, hein. La cohésion territoriale, il n'a pas de dossier à défendre, on ne va pas le voir dans les médias, il faut qu'il fasse deux semaines dans sa circonscription, toujours, comme l'a dit Édouard Philippe, bah sur les électeurs.
Voilà, dans sa circonscription du Finistère, sera-t-il élu, réélu ou pas ?
S'il perd, ça arrangera tout le monde, y compris Emmanuel Macron.
Mais, ah bon ?
Bah, comme ça, il ne pourra pas se poser... Non, parce que la question pour Richard Ferrand, c'est est-ce qu'il le reprend après ?
Là, ce que vous nous dites, c'est que Emmanuel Macron ne rêve que d'une chose, c'est de se débarrasser
non,
de Richard
Ferrand.
Non,
c'est pas Ferrand. Ce que j'ai dit. J'ai dit que si jamais Richard Ferrand perdait,
ça arrangerait Emmanuel Macron.
Toujours. En tout cas, la question de savoir est-ce qu'il doit le reprendre dans un prochain gouvernement ne se poserait pas, et finalement, ça l'arrangerait peut-être.
Le problème, c'est Christian Jacob, ancien patron des députés LR à l'Assemblée nationale, qui le disait aujourd'hui, c'est qu'il y a ce projet de loi de moralisation de la vie publique. Donc voilà, le parallèle est fait avec cette proposition, Jean-Christophe Ploquin.
Oui, c'est une mauvaise coïncidence, même si le projet de loi va porter sur des sujets extrêmement différents que ceux qui sont reprochés à Richard Ferrand. Mais effectivement, pour un président qui a été élu avec des engagements très forts sur la moralisation de la vie politique, incontestablement, l'affaire Ferrand ou la pseudo-affaire Ferrand est une épine dans le pied.
C'est une épine dans le pied, c'est un gros caillou dans la chaussure. C'est quoi la taille de l'embêtement pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe, Marion Mourgue ?
Pour l'instant, c'est une épine dans le pied. On verra si la semaine prochaine, le Canard Enchaîné, qui généralement feuilletonne, remet un euro dans la machine, et si un autre article, là, ça peut devenir une deuxième épine dans le pied. Mais moi, je suis pas d'accord sur l'idée que ça peut prendre dans l'opinion. C'est-à-dire que du fait de ce projet de loi de la moralisation de la vie publique, et c'était au cœur de la campagne d'Emmanuel Macron avec François Bayrou qui l'a apporté, ça peut prendre peut-être pas pour l'ensemble de l'électorat, mais ça, il y a quand même une petite gêne parce que justement c'était au cœur de la campagne. Et c'était le même phénomène avec François Fillon. Parce qu'il avait mis l'honnêteté au cœur de sa campagne de la primaire, il y a eu un retour ensuite des électeurs qui se sont sentis trompés. Alors, est-ce que là, ça sera de la même ampleur ? On verra. Mais ça peut quand même... Il peut y avoir une sorte de petite gêne.
Surtout bon, indépendamment de la dimension judiciaire, bon, le parquet de Brest a décidé de ne pas s'en saisir, c'est une chose, mais aux yeux de l'opinion, c'est quand même un problème. Voilà donc quelqu'un qui est en charge d'une mutuelle, c'est quelque chose qui est, je dirais, associatif, qui rend service aux gens, et la seule société qui trouve pour effectuer telle chose, c'est celle de sa femme. Bon, honnêtement, ça fait bizarre, ça fait une tache dans le tableau. Alors, jusqu'où ça peut aller? Moi, je crois qu'il y a une dynamique indiscutable autour de La République En Marche et que ça ne l'atteindra pas profondément. Mais enfin, c'est quand même une dissonance qui fait mauvais effet. Et je trouve que la droite, évidemment, en rajoute, mais au fond, c'est de bonne guerre. Quand on s'est essuyé, je dirais, pendant des semaines et des semaines, l'affaire Fillon, en disant, ben oui, mais il est présumé innocent,
là,
etc.
Là, il y avait une enquête et François Fillon a fini par être mis en examen.
Non, mais on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu la réponse du berger à la bergère, même si les deux affaires ne sont pas de la même proportion.
Puis Fillon est très rapidement candidat à la présidentielle et lui, la campagne où il était sous le coup des médias et de les exécutions a duré 2 mois. Là, il faut que les affaires en tiennent 2 semaines, voilà, simplement.
2 semaines et donc les électeurs du Finistère, du centre Finistère précisément, trancheront l'avenir politique de Richard Ferrand dans 2 semaines. C'est un sujet qui est très souvent débattu en politique. Le changement de nom, on en a parlé récemment au Front National, au Parti Socialiste également, et hier, le Parisien nous apprenait que le TGV allait changer de nom à partir de juillet prochain pour s'appeler Inouï, comme ce qui est arrivé la nuit dernière aux supporters de foot du club d'Angers. Vous savez, leur équipe disputait la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Angers a perdu 1-0, les supporters sont rentrés chez eux en train, et problème mécanique, le train est resté en rade pendant 4 heures dans la Sarthe, tout près de Sablé-sur-Sarthe d'ailleurs, ça nous ramène à François Fillon. Et donc les supporters d'Angers apprécient sans doute avec joie ce qui leur est arrivé cette nuit donc sur ces rails. Tout ça pour dire que la SNCF maintenant s'expose à ce type de détournement comme ce que je viens de faire. C'est inouï d'attendre 4 heures, etc., etc. Est-ce que c'est risqué ce changement de nom du TGV qui est quand même une marque qui est bien implantée dans l'esprit des Français, Marion Mourgue?
Oui, c'est risqué à différents titres. Moi, je ne comprends pas le besoin de changer une marque quand justement elle est installée dans la tête des gens, et y compris à l'étranger. C'est-à-dire que le TGV, ça parle à tout le monde. C'est une marque enviée parce que c'est synonyme de vitesse, de réussite française. Et alors pourquoi changer pour justement un nom qui est déjà, il n'est même pas installé, qu'il est déjà détourné et moqué. C'est vrai qu'en plus, c'est imprononçable dans d'autres langues étrangères.
J'ai pas essayé, mais sans doute.
Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que le jeu de mots ne veut rien dire en anglais ou en allemand. Et c'est très bizarre de vouloir tout recommencer finalement de zéro, alors qu'on a cette marque qui fonctionne.
Alors l'idée, c'est de créer une nouvelle marque. Il y a les Ouigo qui sont les trains low cost, il y aura les Inouï qui seront les trains un peu premium, on va dire. Il y a Wicar, c'est la location de voitures entre particuliers.
Avec Inouï,
il y a Ouibus aussi.
Avec Inouï, la SNCF cherche à attirer ou à segmenter en quelque sorte le marché, avec d'un côté donc une offre effectivement assez haut de gamme. Il y aura la Wi-Fi, il y aura davantage d'espace.
La Wi-Fi sans jeu de mots.
Oui, exactement. Voilà, d'accord. On y est déjà. La Inouï-Fi. Mais voilà. Donc
une clientèle. Vous appelez, faites attention.
Une clientèle haut de gamme qui est prête à mettre un petit peu plus parce que c'est une clientèle d'affaires ou c'est une clientèle qui a les moyens. Et puis peut-être une clientèle plus de loisirs ou qui a un petit peu moins de moyens et donc qui se retrouvera avec finalement alors les Ouigo, donc qui seront un petit peu la marque low cost, un peu comme dans le transport aérien. Voilà. Il semblerait que ce soit ça la stratégie de la SNCF. Quant au non, effectivement, je trouve ça assez surprenant. Je pense que les jeux de mots, effectivement, ne vont pas s'arrêter de sitôt.
C'est la marque c'est le fait de vouloir tout mettre sous le même pavillon qui peut être gênant, mais c'est le choix du nom d'Aïko Duy.
C'est le choix du nom, mais je pense que c'est pensé. Ils ne sont pas idiots. Ils ont compris les détournements qu'on pouvait en faire. Je pense qu'ils ont prévu une campagne de pub en disant les trains qui arrivent à l'heure, c'est inouï. Les trains qui sont super beaux, super confortables, c'est inouï. Je pense qu'ils y ont même pensé. À la limite, ils sont très contents qu'on détourne le nom, puisque vous savez. En bien ou en mal, l'essentiel, c'est qu'on parle de vous.
Voilà, bad buzz is still buzz, mais on avait promis de ne pas parler anglais ce soir dans les informés de France Info. On va continuer de parler des TGV aussi, de la SNCF qui est dans une situation financière assez délicate. Avant cela, 20h50, l'info, Pierrick Bonneau.
Et le palmarès du 70e Festival de Cannes, la Palme d'Or attribuée au film suédois The Square de Ruben Östlund. Le film français 120 battements par minute remporte le grand prix du festival. Diane Kruger, celui de l'interprétation féminine pour son rôle dans In the Fade. L'interprétation masculine revient à Joaquin Phoenix. Le prix du jury attribué au russe Andrei Zviagintsev pour Loveless, faute d'amour en français, qui dresse le portrait d'une société russe brutale et déshumanisée. Le cinéma français endeuillé ce soir, Jean-Marc Thibault, alter ego de Roger Pierre, est mort à l'âge de 93 ans. Le comédien français emporté par la vieillesse, selon son fils Alexandre, également acteur. Jean-Marc Thibault était notamment connu pour son rôle dans la série Maggie. Quelques dizaines de manifestants ce soir au Trocadéro à Paris contre la venue de Vladimir Poutine. Demain à Versailles, où il sera reçu par le président Emmanuel Macron. Plusieurs associations de ressortissants ukrainiens, géorgiens, moldaves et lituaniens avaient appelé au rassemblement. Il avait été enlevé début mars avec d'autres salariés d'une société minière canadienne. Le président Macron annonce la libération d'un ressortissant français en République démocratique du Congo. On ne connaît pas son identité. Des agents de sécurité violemment agressés par une vingtaine de jeunes sur la base de loisirs de Vertorcy en Seine-et-Marne. Les faits se sont produits vendredi soir selon France Bleu Paris. Le groupe d'agresseurs a utilisé des barres de fer, des battes cloutées et des matraques télescopiques selon un vice-président de la région Île-de-France. 5 agents ont été blessés, dont un sérieusement à la tête. Ils ont été conduits à l'hôpital.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet.
Les informés avec Marion Mourgue, Jean-Christophe Ploquin, Daï Cauduy et Maurice Ulrich. Si vous prenez le train en marche, bon, désolé. Je vous rappelle que nous parlons du changement de nom des TGV qui vont devenir Inouï, comme Engie a succédé à GDF Suez, comme Altice a succédé à SFR. Maurice Ulrich, c'est le vent de l'histoire, peut-être.
Il y a le côté un peu ridicule de ce mot fabriqué sans doute par des communicants très intelligents et très en phase avec je ne sais quoi. Sur le fond, c'est plus problématique parce que on voit bien que, à mon sens, même si les questions de gestion de la SNCF sont assez complexes et qu'on va pas rentrer dedans comme ça, moi j'y vois quand même la poursuite d'une sorte de fuite en avant vers, je dirais, un service public au fond à plusieurs vitesses. C'est-à-dire que, c'est pour préparer l'ouverture à la concurrence cette histoire, hein. Faut pas se tromper. Donc on abandonne complètement l'idée en réalité qui était celle au départ de la SNCF. Alors évidemment, ça peut changer, ça peut évoluer, mais en gros de desservir à égalité toutes les parties du territoire et rendre tous les citoyens égaux devant le transport public. Voilà, enfin, c'était un peu...
Déjà, ça n'existait plus, parce que vous train, plus personne ne payait la même chose.
Je suis d'accord, mais c'est pour ça que j'ai dit une fuite en avant.
Sans parler des territoires desservis par le TGV et ceux qui ne le sont pas.
Et puis tous les territoires qui ont été abandonnés par le train depuis maintenant des décennies. Alors, donc, on est dans cette fuite en avant, et peut-être que ça peut être rentable d'un strict point de vue de gestion d'une entreprise, mais du point de vue de l'idée même de service public de la SNCF, eh bien c'est là on est complètement en dehors.
Alors changement de façade, les TGV vont devenir des inouïs, mais en arrière-boutique la SNCF va mal, avec notamment une dette très lourde, 53 milliards d'euros au 1er janvier dernier, dont 44 pour SNCF Réseau. Si on élargit un peu, l'AFIFT, l'agence de financement des infrastructures de transport en France, est également en souffrance. Constat très sombre dressé par l'ancien ministre des Transports, Les Républicains, Dominique Bussereau, au micro d'Élodie Guéguin.
Je dirais qu'il manque 1,5 milliard à 2 milliards de recettes à la FIFT, qu'il manque à SNCF Réseau pour rénover notre réseau ferré, qu'il manque à VNF pour rénover notre réseau fluvial et qu'il manque également aux grandes agglomérations pour la participation de l'État, de nouvelles lignes de bus à haut niveau de service, de tramway, de métro, de téléphérique. On était en avance, mais on va prendre du retard. L'Espagne a plus de lignes TGV que nous. L'Allemagne, qui avait un réseau autoroutier qui s'était beaucoup abîmé, le refait. Voilà, nous, on va finir des lignes TGV, donc on va faire un grand cocorico au mois de juillet, et puis après, il n'y a plus rien.
Voilà, le cocorico avant le néant, nous dit Dominique Bussereau. C'est un tableau extrêmement sombre. Hein. On avait des paillettes plein les yeux avec nos inouïs, et là, on se rend compte qu'il y a combien ? 53 milliards de dettes ?
Je pense qu'il n'a pas tort, là, en l'occurrence, parce que le tableau, effectivement, il est sombre. N'oublions pas aussi que parmi les ambitions abandonnées, par exemple, il y a la question du ferroutage, par exemple, qui sont des questions considérables. Et on a tourné le dos à la SNCF depuis maintenant des décennies à cette politique, je dirais, nationale dont je parlais, avec la volonté de servir le territoire dans son intégralité, mais aussi, justement, d'aller vers des moyens de transport innovants. Le ferroutage en est un. En attendant, on se ramasse des dizaines et des dizaines et des milliers de camions sur les autoroutes, etc. Voilà.
Déconduit, c'est un sujet qui va arriver rapidement sur le bureau du ministère des Transports.
Vous savez qu'il y a un nouveau responsable à SNCF, directeur de la stratégie et de la communication, qui s'appelle Mathias Vichra, qui a fait l'ENA avec Emmanuel Macron. Ah. Et ils étaient assez potes, ils faisaient du karaoké ensemble.
Du karaoké?
Oui.
Aïe. J'ai cru que vous alliez dire karaté.
Non, du karaoké. Bon, Macron connaît très bien. Voilà, peu importe. Et Mathias Vichra travaillait à la mairie de Paris avec Elisabeth Borne, qui était à l'urbanisme à l'époque et qui est ministre des Transports. Bref, ces gens-là se connaissent. Donc au moins, il y a des canaux. Je suis pas sûr que Emmanuel Macron, ça soit son dossier prioritaire, même s'il s'intéresse au transport depuis qu'il a fait des cars qui sont responsables des difficultés de la SNCF.
La SNCF elle-même a développé une filiale
des deux cars, mais voilà.
Bus, les Ouibus.
Plus la concurrence des avions. Donc c'est vrai que la SNCF a un problème et qu'en même temps, il y a des infrastructures qui sont mais complètement vétustes. Mmh. Les aiguillages, etc. Donc elle est en déficit et elle doit quand même aussi, avant de penser à créer de nouveaux trains, à réparer l'état existant.
La question, l'une des questions, c'est qui va prendre la dette en charge, la dette de la SNCF.
La question, oui, c'est
Jean-Christophe Loquin.
Quand on a un État endetté, effectivement, l'État peut pas venir au secours d'une société publique, quoi. Et donc, je pense que là, on rejoint aussi le sujet plus global de l'endettement, et que si on pouvait résorber l'endettement de l'État, il pourrait être davantage État actionnaire et État stratège qu'il ne l'est aujourd'hui, peut-être pour la SNCF.
Alors, des relations avec la SNCF, nous dit Daïkodou, il y a Guillaume Pépi qui est toujours le patron de la SNCF, Marion Mourgue.
Qui est là depuis plusieurs présidents, mais qui est toujours là. Oui.
Ne l'oublions pas.
Mais c'est ce qui fait partie des fonctionnaires que veut remplacer Emmanuel Macron, Marion.
Oui, peut-être qu'il changera, mais bon, on verra.
Allez-y, vous vouliez quelque chose sur la situation
de la
SNCF.
Mais, sauf erreur de ma part, je crois qu'il n'y a que la ligne Paris-Lyon qui soit rentable aujourd'hui. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de lignes qui ne le sont pas, donc c'est aussi une des questions qui vont se poser avant l'ouverture à la concurrence. Et c'est sûr que ça changera le paysage. On va peut-être arriver à un paysage un peu à l'anglo-saxonne. Par exemple.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire ouvert à la concurrence ou c'est plus à la carte, quoi, finalement.
Voilà, avec plusieurs compagnies à l'avenir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a décrypté la stratégie de la SNCF grâce à vous. Merci Maurice Ulrich. Que vous lisez dans L'Humanité, Daïkodui, que vous écoutez et que vous regardez sur France Info.
Canal 27.
Absolument. TNT. Jean-Christophe Loquin, que vous lisez dans La Croix. Et Marion Mour, que vous lisez dans Le Figaro. Merci d'avoir participé ce soir aux informés de France Info qui seront là demain à 20h avec Jean-Mathieu Pernin. D'autres infos à venir sur France Info.